Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée. Et dans ce 249e épisode, on va parler de flexibilité mentale ou flexibilité de l'esprit. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre-rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode en ce vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et qu'elle est en train de bien se clôturer. Normalement, c'était une semaine avec pas mal de ponts et tout ça, donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'était une semaine de vacances. Peut-être même que vous êtes en train d'écouter ça alors que vous avez pris votre vendredi. Donc, ou peut-être que vous l'écouterez lundi du coup. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, j'ai juste un chat là, dans mon champ de vision, qui a très envie de jouer. Alors que moi j'ai très envie d'enregistrer ce podcast. Donc on va voir à quel moment nos intentions vont rentrer en conflit, mais il n'est pas impossible que nous ayons des bruits de chat, comme là par exemple, elle est en train de sauter partout, je ne sais pas si vous l'entendez. Mais bon, bref, en tout cas je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de flexibilité mentale, de flexibilité de l'esprit. Ça fait un petit moment que j'ai ce podcast d'écrit où je travaille dessus en me disant un jour il faudra que je vous parle de ça, parce que c'est un sujet auquel je pense régulièrement comme étant une capacité, la capacité de la flexibilité au niveau de l'esprit, comme étant quelque chose d'extrêmement utile au cours des années. J'ai noté trois grands domaines et trois grandes raisons pour lesquelles c'est utile, donc j'ai vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Je vais opposer flexibilité à rigidité mentale. Donc il va falloir que je définisse un petit peu de ce que je veux dire par là, parce qu'on pourrait comprendre plein de choses derrière ce mot flexibilité mentale, flexibilité de l'esprit. En fait, ce que je veux dire par là, c'est la capacité à ne pas penser, faudrait peut-être que je fasse pas une définition à la négative, mais la capacité plutôt à penser multiple et à être en capacité de voir qu'il existe d'autres manières de penser. C'est une forme de non-rigidité, de capacité à juste s'ouvrir. Alors on pourrait juste dire que c'est de l'ouverture d'esprit, mais pour moi dans l'ouverture d'esprit il y a une notion de curiosité, d'envie de découvrir l'autre, ce que je mets pas dans la flexibilité de l'esprit. Pour moi la flexibilité de l'esprit c'est vraiment une compétence, une capacité qu'on a en naissant de toute manière et puis qu'on peut développer et nourrir au cours de la vie, d'être souple en fait dans nos idées et dans nos argumentations, et dans la discussion, et dans ce qu'on peut recevoir aussi comme information. On connaît tous des gens, vous savez, dans notre entourage, on a tous ça, des gens qui sont inflexibles, des gens où tu te dis, oula, si je lui dis ça, ça va être compliqué, hein. Je vais m'en prendre une, on va se faire engueuler, ça va jamais passer, c'est sûr, si je lui dis ça, ça va jamais passer. Vous voyez ou pas de quoi je parle? Des gens où, en fait, vous savez. Alors peut-être pas dans l'ensemble, parce qu'on est tous, un spectre, et voilà, mais vous savez que sur tel ou tel sujet, ça ne va pas passer si vous dites quelque chose. C'est que la personne va être fermée, et c'est pas forcément qu'elle est fermée d'esprit, c'est pas forcément, intéressée par d'autres cultures ou d'autres façons de voir les choses, mais c'est juste qu'elle ne peut pas entendre certaines choses, et qu'elle reste inflexible dans un domaine de sa vie où, voilà, en général, c'est très borné et vous risquez de vous prendre une torgnole symbolique si jamais vous émettez une idée qui ne va pas dans son sens ou avec laquelle elle n'est pas d'accord. Et pour moi, en fait, cette rigidité-là, cette façon de voir les choses tout noir ou tout blanc, c'est comme ça et c'est pas autrement, en fait, c'est quelque chose qui est assez contradictoire avec la réalité, qui est assez contradictoire avec le monde vivant où, en fait, les choses enfin, nos notions de vrai et de faux en tant qu'être humain sont quand même assez bornées et assez construites mentalement, parce que la réalité, elle est beaucoup plus flexible que ça. Donc si vous voulez, moi, la flexibilité de l'esprit, je pourrais faire l'analogie avec la flexibilité du corps. Imaginez que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que ce qu'on veut au cours de la vie, c'est rester souple, rester capable de mouvement, capable de se tordre, de s'adapter à son environnement, de faire même des efforts physiques, et là en l'occurrence mental, de même faire un effort de l'esprit pour essayer de comprendre l'autre, mais que ça ne nous empêche pas de revenir à notre position initiale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que demain je vais m'amuser à faire un grand écart que je ne vais plus être capable de marcher debout normalement dans la rue, vous voyez ? Et en fait c'est assez intéressant parce que quand on parle de flexibilité de l'esprit, souvent quand on discute avec des personnes qui ont peur de ça, qui ont peur de la flexibilité, ce qu'il y a derrière c'est... En fait, on a peur souvent d'avoir nos valeurs qui vont être entachées. On a peur de plier sous les valeurs de l'autre. On est rigide parce qu'en fait, on veut suivre notre ligne de conduite. Donc on va dire non, on va se montrer impassible, on va ne pas être à l'écoute parce qu'on imagine que si on écoute, si on s'ouvre, si on laisse l'autre nous parler de sa vision du monde, si on laisse l'autre nous dire que, en fait, non, c'était pas un manque de respect quand elle est arrivée en retard, mais qu'en fait, c'était telle ou telle chose qui lui est arrivée et telle ou telle croyance qu'elle a sur elle-même, en fait, c'est son manque d'estime et qui fait qu'elle s'est mal organisée et que c'est pas du tout qu'elle veut nous manquer de respect. Si on veut pas écouter ça, en fait, souvent, c'est parce qu'on a peur d'être non respecté, typiquement. Vous voyez, on a peur que ça aille sur nos plates-bandes, que ça aille à l'encontre de nos besoins et de nos valeurs. Alors qu'en réalité, ça ne change rien au fait qu'on ait des valeurs. Le fait que l'autre existe de toute façon avec ses idées, avec sa vision du monde, et le fait qu'on puisse s'ouvrir à ça, et qu'on puisse écouter ça et bouger avec, vous voyez, et s'adapter à ça, ne change rien à qui on est, nous, profondément. Vous voyez, je peux très bien m'adapter à mon amie et écouter et être empathique avec elle au moment où elle m'explique qu'en fait, elle est vraiment désolée, mais que c'est vraiment quelqu'un de désorganisé et qu'elle veut pas manquer de respect, que c'est pas ça, c'est pas parce qu'elle en a rien à faire de nous et qu'elle pense que notre temps est illimité, mais que c'est qu'en fait, elle arrive pas à s'organiser. On peut être souple dans notre tête et penser au fait que c'est bien possible, qu'elle n'est pas en train de se foutre de notre tête, en fait, et qu'elle n'est pas en train de nous raconter sirène, mais qu'en fait, elle nous manque juste de respect. On peut se dire, ah oui, ok, elle n'est pas en train de manquer de respect, c'est pas ce qu'elle est en train de faire, elle n'est pas en train de se dire, le monde est à moi, et les gens en face de moi sont moins importants, ou je ne sais pas trop ce qu'on se raconte dans notre tête. Elle se dit pas, ma pote Esther, en fait, elle sera sympa, donc je peux lui manquer de respect. Elle se dit pas ça, en fait. On peut être souple et écouter, sans changer le fait que, nous, on a besoin que les personnes arrivent à l'heure parce que notre temps, on le valorise et que nous, par contre, on a du respect pour nous-mêmes et pour notre temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que du coup, on peut mettre une limite. On peut dire, il n'y a pas de problème, la prochaine fois, juste, je pars au bout d'un quart d'heure parce que je n'ai pas envie d'utiliser plus d'un quart d'heure à attendre une personne. Ou on peut nous-mêmes développer d'autres choses. Enfin, ça va dépendre là de votre personnalité, de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, etc. Mais vous pouvez aussi prévoir d'autres activités. Enfin bon, bref, on s'en fout. Le but n'est pas de vous dire comment faire quand les gens arrivent en retard à votre rendez-vous. Mais vous avez compris un peu l'idée. L'idée, c'est d'avoir cette espèce de souplesse et de se dire, c'est comme le corps physique. Ce n'est pas parce que je m'assouplis et que je fais des mouvements qui sont pas des mouvements du quotidien, que je ne suis plus en capacité de faire les mouvements du quotidien. Vous voyez, c'est pas parce que je m'assouplis que je peux pas revenir à cette forme de droitesse dans laquelle j'ai envie de fonctionner. Donc souvent, le premier truc qui nous bloque à être flexible, c'est ça, c'est qu'on a peur qu'on marche sur nos limites, nos valeurs ou nos besoins. Et là, en fait, c'est un tout autre sujet. Moi, pour moi, c'est pas une question d'inflexibilité. Le fait d'être tout blanc, tout noir, d'être hyper ferme, de pas pouvoir écouter l'autre et de pas être flexible dans notre tête et dans notre vision du monde n'est pas du tout la solution à ce problème. C'est pas du tout la même chose. Là, le problème, il est plutôt que on a besoin de travailler sur nos limites, en fait. On a besoin d'apprendre à mettre des limites claires, de bien savoir où sont nos valeurs, où sont nos besoins, quelles sont nos limites, et de les appliquer pour nous-mêmes. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être inflexible, on n'a pas besoin d'être rigide, on peut le faire avec souplesse. Et la souplesse, en fait, ça va nous permettre de suivre le mouvement et de suivre la vie, en fait. J'ai trois grandes raisons pour lesquelles je trouve que c'est important d'être souple. Juste, je m'assure en regardant mes notes que je vous ai dit ce que je voulais dans l'introduction. Oui, voilà, les peurs, c'est ça. Généralement, c'est ça, le gros blocage en général, il est ça. Il pourrait être une incapacité mentale à vraiment se montrer flexible et à voir qu'il existe d'autres réalités que la nôtre. J'ai l'impression que ça, ça peut arriver quand on est jeune, de pas voir, ou quand on n'a pas du tout voyagé, ou quand on n'a pas du tout encore rencontré de personnes qui sont très différentes de nous. J'ai l'impression que c'est compliqué aujourd'hui avec les réseaux sociaux de pas se rendre compte qu'en fait, il y a plein de façons de penser différentes, et qu'il y a plein d'histoires de vie différentes, et je pense que c'est compliqué d'avoir zéro souplesse sur notre vision du monde et de se dire, voilà, ma vision, c'est la seule et l'unique qui existe, et toute personne qui viendrait m'en raconter une autre mettrait en danger le réel, en fait. Ce qui n'est pas le cas, en fait, mettrait en danger juste ma vision du monde, mais comme je crois que ma vision du monde est la seule réalité, bah, je m'inquiète du réel. Vous voyez, c'est un peu symbolique, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Donc je dirais que c'est surtout, en général, qu'on a peur, en fait, de se faire marcher dessus et que nos besoins soient plus nourris si on se montre flexible, en fait. C'est un peu le truc de on a peur d'être trop bon, trop con, quoi. On a peur d'être trop gentil. C'est souvent quelque chose que vous m'amenez, surtout quand vous avez une forme d'hypersensibilité ou une certaine hyper-empathie. Souvent, vous m'amenez cette problématique-là. Donc, quelles sont les trois bonnes raisons que moi, je vois à la flexibilité mentale? La première bonne raison que je vois, c'est le lien avec l'autre. Le fait d'entrer en lien, en fait, être flexible mentalement va permettre d'être plus en empathie et d'avoir un lien de qualité avec l'autre. Dans l'exemple que je vous ai donné là, de résistance avec le retard, par exemple, le fait de pouvoir entrevoir que ma perception qui est « j'ai l'impression que l'autre, ma projection, c'est l'autre me manque de respect », le fait de entrevoir que ce n'est pas la seule possibilité et de laisser l'autre me dire sa raison me permet de rentrer en lien avec lui et d'être en empathie et d'avoir un lien de qualité. Là où ailleurs, si je n'étais pas flexible, en fait, je pourrais rentrer en conflit et lui dire « Non, mais en fait, tu te fous de ma gueule. Non, mais en fait, tu me prends pour qui ?» Et puis, bah, on rentrerait en conflit et il ne serait pas possible de dialoguer. Quand je vous donnais l'exemple tout à l'heure où je vous disais « Pensez à quelqu'un dans votre entourage où vous savez que vous ne pouvez pas lui dire certaines choses, que ça ne passera pas », vous voyez bien qu'à ce moment-là, le lien, il est brisé. À ce moment-là, bah, vous ne pouvez pas lui dire des choses. Et en fait, c'est super important, je trouve, si on veut des relations avec une vraie profondeur, et puis même juste sans forcément une profondeur intense, mais juste une relation qui soit sincère, d'avoir une certaine forme de flexibilité. Parce que le risque est que les personnes en face, finalement, n'osent plus nous dire des choses. Se disent, voilà, je vais la vexer si je dis ça, elle ne va pas ou il ne va pas écouter si je lui dis ça, c'est trop pour elle, sa réaction... Enfin, en fait, souvent, on s'adapte, enfin, c'est même pas souvent, c'est tout le temps, on s'adapte aux réactions de l'autre, en fait. On va tester, on s'en rend même pas compte, hein, évidemment, mais dans le lien, en fait, on va tester de dire des choses, on va tester des postures avec l'autre, et en fait, et ça, ça arrive généralement quand on se rencontre, en fait, on commence à tester et tout, puis en fait, on va se sentir bien et en lien avec quelqu'un en fonction de combien on peut être intime émotionnellement avec lui ou avec elle, ou intime sur d'autres sujets, donc ça peut être aussi dans des activités communes qu'on a qui nous tiennent à cœur, ou ça peut être bah, une intimité physique quand on parle du couple, par exemple, mais vous voyez, une forme de proximité. Et en fait, cette proximité-là, elle est dépendante de notre flexibilité, de notre capacité à comprendre et à écouter l'autre et à pas le prendre comme une attaque. Et pour ça, il faut être capable d'être souple. Il faut être capable de se dire « Ok, moi j'ai ressenti ça, ça m'appartient, je vois le monde comme ça et c'est pour ça que j'ai ressenti ça. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord que je ne veux pas changer dans ma vision du monde parce que j'en sais rien. C'est ma religion, je pense comme ça. » Et ça me convient, et j'y crois, et c'est mes valeurs, ou c'est quelque chose, j'en sais rien, c'est mon opinion politique, et j'ai pas envie de la changer, et je pense que les choses devraient être comme ça, et que c'est ça qui est juste, et j'ai pas envie de le changer, mais ça ne m'empêche pas d'écouter. ça ne m'empêche pas de m'ouvrir et de savoir qu'il n'y a pas que ma vision du monde qui existe. Et de pouvoir être flexible. Vous voyez ? Alors, pour avoir cette flexibilité-là, c'est sûr que il faut se donner des fois un pas de recul. C'est-à-dire que sur le moment, on peut ne pas être flexible parce qu'en fait, on a trop mal. C'est aussi une réaction. Genre, si on est en train de vivre une émotion intense dans la situation qui vient de se passer parce que l'autre a fait une action et nous, ça nous blesse, par exemple, bah, il peut y avoir un point d'inflexibilité au départ. Parce que là, on est juste en mode, on se met dans une coquille, le temps de laisser l'émotion passer, et ensuite, on peut avoir une certaine flexibilité. On n'a pas besoin d'être flexible 100% du temps, tout le temps. Mais ce qui est important, c'est l'idée et le fait que cette possibilité existe dans notre vie. Vous allez voir que dans les relations, et je pense que vous le voyez déjà dans votre vie, j'en suis sûre, qu'en fait, les relations où il y a le plus de possibilités d'écoute et de naviguer avec les idées et avec les différentes possibilités, c'est aussi là où il y a le plus d'intimité possible. Donc, dans une relation, dans vos relations, ça va grandement vous aider et c'est déjà l'une des premières possibilités, l'une des premières raisons que je vois à être flexible, c'est le fait de pouvoir vraiment être en lien avec l'autre. Sinon, si on n'est pas flexible, on va pouvoir créer du lien qu'avec des gens qui ont une vision qui est très similaire à la nôtre, voire totalement la nôtre. Donc ça va être, c'est pas si facile que ça à trouver. Alors souvent on se facilite quand même la vie en allant chercher des personnes qui nous ressemblent en termes de valeurs pour se sentir plus facilement en empathie et créer plus facilement du lien. Mais vous voyez, si vous devez trouver quelqu'un qui est d'accord avec vous surtout, qui voit les choses comme vous, parce que sinon il n'y a pas de possibilité de flexibilité de se comprendre en dehors de si on a les mêmes avis, ça devient très compliqué. Et le risque, en fait, il est surtout d'avoir des relations superficielles, des relations finalement où, comme ça n'existe pas, une personne qui pense tout exactement comme vous, bah, en fait, on se retrouve à ne pas dire certaines choses, ou l'autre ne nous dit pas certaines choses, et en fait, bah, on a une relation où il y a des endroits où, en fait, il y a des non-dits. Et ça finit par être pesant. Donc, si on veut des relations avec de l'empathie, avec de la compréhension mutuelle, travailler sur sa flexibilité et sa capacité à bouger et à peut-être s'ajuster aussi, c'est-à-dire se dire, ok, si on se rejoint au milieu sur tel ou tel sujet, c'est pas moi qui bafoue mes valeurs, c'est vraiment juste nous qui priorisons le lien, et je vais vous redonner un exemple que je vous ai déjà donné dans le podcast, ma mère, je vous ai déjà dit que ma mère est témoin de Jéhovah, et qu'elle veut absolument me parler de la Bible à chaque fois qu'elle me parle, parce que dans sa religion, vu que moi j'en suis sortie, elle n'a pas le droit, en fait, de parler avec des personnes qui ont été excommuniées. Donc en fait, pour me parler, elle a le droit uniquement si c'est pour me faire revenir. En fait, la seule raison pour laquelle elle a le droit d'avoir un lien avec moi, c'est si dans son lien, il y a une intention de me faire revenir. Et en fait, pendant des années, ma limite était, je veux pas que tu me parles de la Bible, si tu me cites un verset biblique, moi j'estime que tu n'es pas là pour le lien mère-fille, mais que tu es là pour me faire revenir. Et dans ce cas, bah, je quitterai la conversation, c'était ma limite. En fait, avec le temps, cette limite, elle a été déplacée parce qu'en fait, la raison d'être de ces limites, ce qu'elle protège, c'est le fait que moi, je ne suis pas croyante en la Bible et que c'est ma vision, en fait. C'est ma croyance religieuse, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, je protégeais ça, qui était donc une de mes valeurs. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je n'ai pas besoin, parce que j'ai travaillé sur ma flexibilité mentale, et puis parce que les limites, elles sont, enfin, en général, les besoins et les valeurs qu'il y a derrière, elles ne changent pas, mais par contre, les stratégies dans le monde réel face à une limite, face à un besoin, peuvent bouger, donc les limites peuvent changer, en fait. Et là, la limite, maintenant, c'est plus ça, c'est juste que je lui fais remarquer. Je lui dis, là, t'es en train de me parler de la Bible, là, t'es pour moi, t'es pas dans le lien. Je lui fais remarquer, je lui dis, là, je me sens comme si tu me faisais la morale, ou comme si t'étais en train de me prêcher pour que je revienne. Et dans ce cas, elle ajuste. Et en fait, elle entend. Elle entend le truc parce qu'on a toutes les deux travaillé sur notre flexibilité mentale. Alors, elle va le faire quand même parce que c'est dans ses valeurs. Et moi, j'accepte ça. Juste, je n'ai plus peur que ça m'infuse. C'est-à-dire, en fait, je sais très bien que ma croyance ne va pas changer et que je suis solide, en fait, dans mes propres besoins et dans le fait de respecter mes valeurs. Mais ça demande du temps. Donc, il y a des domaines sur lesquels on est moins flexible que d'autres. Et pendant des années, moi, la religion, vous vous en doutez, c'était un sujet extrêmement sensible sur lequel j'avais très peu de flexibilité mentale. Bon, bah ça s'exerce. C'est vraiment comme la flexibilité physique, en fait. Ça s'exerce. On ne peut pas attendre de la souplesse du jour au lendemain si on n'a jamais pu toucher le sol avec nos pieds. Avec nos pieds, pardon. C'est drôle ce que je viens de dire. Si on n'a jamais pu toucher le sol avec nos mains, vous voyez cette position où vous avez les jambes tendues, vous touchez le sol, on ne peut pas s'attendre à ce que ça nous arrive en une semaine, même en faisant des exercices tous les jours en fait. Ça va prendre du temps et ça demande d'être à l'écoute de son corps. Et là, c'est la même chose, si vous voulez travailler sur votre flexibilité mentale et émotionnelle et tout ça, il va falloir écouter aussi les émotions et pas aller au-delà de ce qui est, de ce qui est possible pour vous en termes de sécurité émotionnelle. Deuxième raison que je vois à travailler sur sa flexibilité mentale, elle découle un peu de ce qu'on vient de dire dans le lien finalement, enfin en tout cas vous allez comprendre que c'est en lien, c'est juste de grandir en tant que personne, de pouvoir continuer à apprendre et continuer à faire évoluer ses valeurs, ses idées et sa vision du monde. La flexibilité mentale, ça va vous permettre effectivement de rencontrer plus facilement d'autres personnes, mais de vraiment les rencontrer. C'est-à-dire, quand j'ai rencontré des gens, c'est pas forcément en voyageant ou quoi, mais juste même le barman du café à côté de chez vous, vous allez plus le rencontrer si vous arrivez avec cette posture de flexibilité. Ou ce qu'il va vous dire, vous n'allez pas vous braquer, vous n'allez pas vous dire « Oh là là, putain, le gros macho, quoi. Là, il vient de me dire un truc. Oh putain !» Vous voyez ? Et vous allez le penser, vous allez avoir ce jugement parce que vous avez ces valeurs féministes, machin, et du coup vous allez entendre qu'il vient de dire un truc hyper, hyper sexiste vis-à-vis de sa femme, j'en sais rien, j'ai pas d'idée sur quel truc sexiste peut dire un propriétaire de café, en plus c'est hyper cliché ce que je suis en train de dire, donc ça se trouve le propriétaire du café en bas de chez vous est pas du tout sexiste, même si c'est un homme de 60 ans, mais bref, vous avez compris l'idée, vous allez pouvoir écouter avec amusement et vous dire en fait je suis pas attaqué dans mes valeurs elles sont toujours là, le monde est en train de changer au niveau du féminisme, j'œuvre pour ça, je peux être curieux, je peux écouter, je peux essayer de me mettre à sa place, je peux essayer de comprendre, je peux être ouverte et voir qu'en fait il y a vraiment des gens qui pensent comme ça et pas me dire non mais c'est pas possible, non mais je refuse qu'il y ait des gens, c'est pas possible, c'est pas normal, ça doit pas exister. Bah en fait ça existe, oui, une forme de rapport à la réalité aussi qui est très apaisant avec cette flexibilité-là. Et ça nous permet de mieux comprendre le monde et de grandir et de se dire, ok, en fait, il existe des personnes qui pensent différemment de moi. Il existe plein de possibilités, plein de visions du monde. Et avoir cette ouverture-là, cette flexibilité-là, permet de recevoir des nouvelles idées. Alors, l'ouverture d'esprit va nous permettre d'être curieux par rapport à ces nouvelles idées. La flexibilité va nous permettre de juste les recevoir, même quand on ne les a pas demandées. C'est-à-dire de recevoir des idées nouvelles et de les emmagasiner, de ne pas être tout seul dans notre bulle. Vous savez, on connaît tous des gens comme ça, de générations précédentes, qui sont en fait bloqués dans leur vision du monde et qui n'ont pas compris qu'on n'était plus sous De Gaulle, quoi. Vous voyez ? Enfin, j'exagère un peu, mais... Et ça arrive assez souvent parce qu'en fait, c'est ce que va faire le cerveau. Le cerveau est un peu feignant, en fait. Et le corps aussi, d'ailleurs. Le corps, il veut que faire les mouvements qu'il a l'habitude de faire. Et si on fait pas un peu de torsion, si on fait pas des levées de jambes, si on n'essaye pas d'entraîner nos muscles et nos tendons, etc., on peut vite se retrouver, finalement, dans une forme de feignantise physique, de feignantise mentale. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais une forme de... Oui, de non-flexibilité, qui peut être délétère sur le long terme. Donc si on a envie de continuer à être quelqu'un qui grandit, qui apprend des choses, cultiver cette flexibilité-là, remarquer en fait quand on dit « aïe, là ça me fait mal, là ça me demande un effort d'essayer de comprendre si je veux créer de l'empathie avec cette personne, si je veux rentrer en lien avec cette personne et la comprendre, là ça me demande un effort, ça fait mal, c'est comme un étirement ». C'est comme un étirement de mon esprit, en fait, où je me dis, ok, il faut que j'accepte que cette personne existe et qu'elle pense comme ça, ou que cette idée existe et qu'elle est comme ça, sans en avoir peur, sans me dire c'est une menace, sans me dire ça va moi me faire changer, parce que c'est pas le cas, sans me dire, c'est comme faire des étirements en disant non, je vais pas me casser les tendons, je peux continuer à chaque respiration, étirer un petit peu plus pour mettre mes mains encore plus proches du sol. Et il ne va rien se passer, mon arrière-genou ne va pas se casser en deux, je ne vais pas perdre mes membres. Vous voyez ? Donc il y a vraiment un peu cette souplesse-là à créer. Donc le deuxième point que je vois vraiment, c'est continuer à grandir, continuer à apprendre, continuer à évoluer. Et en continuant à évoluer, on se rapproche aussi encore plus de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, cette flexibilité-là, on se l'octroie aussi. Et on va mieux se comprendre même nous-mêmes, parce qu'on va observer nos réactions, on va observer quand est-ce que ça tire. C'est vraiment, vraiment comme les étirements physiques, en fait. On va mieux comprendre notre corps, on va dire, tiens, c'est marrant, moi, mon genou gauche, il y a ça. mon genou gauche, ah bah oui, c'est normal, étant petite, j'avais fait une chute et j'avais fait une belle entorse au genou, bah là, je le sens, mon genou gauche, tiens, c'est marrant, je peux un peu moins, je suis un peu moins souple là-dessus. Bah, ça va être la même chose, en fait, sur les idées. Vous allez dire, moi, par exemple, je sais que la religion, ça reste un truc sensible. Ça reste un truc, alors, je suis certainement plus flexible que plein de personnes parce que, justement, j'ai travaillé dessus, mais ça reste un truc, ça fait partie des choses où, fou, c'est dur pour moi, les idées religieuses très, très carrées. Vous savez, c'est pas que la religion en soi est un sujet sur lequel je suis inflexible, mais c'est vraiment quand on m'amène des trucs de « c'est comme ça parce que Dieu l'a dit ». Ouh, c'est très dur. Mon cerveau, il fait « ouh, ça tire, la grand écart, oh, pas souple là-dessus hein. ». Vraiment, oui, bah voilà, moi, les cuisses, c'est pas l'endroit où je suis souple. Ben moi, c'est ça. Ça, c'est pas l'endroit où je suis souple. Par contre, il y a d'autres trucs qui paraissent complètement dingues sur la sexualité, par exemple, ou la souplesse, bah ouais, je sais pas, j'ai toujours eu une souplesse naturelle là-dessus. Et bah, vous allez remarquer la même chose en fait pour vous, c'est comme le corps. Vous allez remarquer vos spécificités et vous allez vraiment apprendre à vous connaître et à grandir en fait. Donc ça c'est le deuxième intérêt que je vois à faire ça. Et le troisième et dernier intérêt que je vois à faire ça et que j'ai envie de vous mentionner aujourd'hui et à nourrir cette flexibilité-là, c'est la vieillesse en fait. C'est le fait de bien vieillir. Nourrir sa flexibilité mentale, pour moi, c'est exactement la même chose que nourrir sa flexibilité physique. C'est-à-dire, c'est une façon de préserver votre cerveau. C'est une façon d'utiliser encore votre esprit et de rester à la page, j'ai envie de dire, quelque part. En fait, je pense que être capable de faire cette gymnastique-là, être capable de recevoir des idées qui nous mettent mal à l'aise, être capable de recevoir des visions du monde qui nous paraissent totalement absurdes et très éloignées de notre vision à nous, en fait, ça permet de garder un pied dans le monde dans lequel on vit. Parce qu'en fait, c'est assez facile en vieillissant. Alors, je ne suis pas vieille, hein, j'ai 37 ans, donc je ne suis pas vieille du tout, mais je m'en rends déjà compte parce que je vois des personnes, je côtoie parfois des personnes qui ont la vingtaine, et je me rends compte qu'en fait, on ne vit pas du tout dans le même monde, on ne vit pas du tout dans le même paradigme. Et puis, bah, je m'en rends compte aussi avec mes patientes, forcément. Je parle souvent avec des personnes qui me parlent de choses intimes et qui sont de générations précédentes ou de générations postérieures à moi. Et du coup, c'est hyper intéressant de se rendre compte que, en fait, on peut très vite rester bloqué dans sa tranche d'âge, par exemple. Alors là, je donne l'exemple de l'âge, mais en fait, c'est possible aussi de rester bloqué dans sa tranche socio-professionnelle, c'est possible de rester bloqué dans sa culture française, dans sa religion. C'est très très facile, en fait, de rester dans une forme d'entre-soi. Et en fait, de vivre toute sa vie avec une forme d'entre-soi, puis de se retrouver finalement en vieillissant, à être en difficulté. On arrive très souvent, enfin en fait il y a un vrai décalage, genre si c'est passé 50 ans entre le moment où vous avez construit votre vision du monde et aujourd'hui, en fait le monde il a changé, votre vision du monde elle s'est basée sur un monde qui n'existe plus en fait, qui a évolué. Et c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'une forme de flexibilité, de comprendre que les choses bougent, que le monde évolue, que le monde fluctue en permanence, sinon, en fait, on se voue à la souffrance, en réalité. Et donc, ça arrive assez souvent, quand on est plus âgé, de se retrouver dans cette situation où, en fait, on ne comprend plus rien au monde qui nous entoure. Et en fait, on se retrouve avec le temps, comme ça, à être complètement, j'ai envie de dire, obsolète. Alors, c'est hyper violent comme mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'ai vu pas mal de personnes, par exemple, qui refusaient les réseaux sociaux. Par exemple, de ma génération, je parle, qui refusait les réseaux sociaux, qui disait non, ça c'est pas pour moi, ça je veux pas, etc. Et avec une forme d'inflexibilité, ce qui n'est pas du tout la même chose que de dire, en fait, on essaye, on ouvre les réseaux, et finalement, on les utilise pas, parce que ça nous parle pas tant que ça, mais on est capable de se dire, ok, il y a un monde dans lequel ça c'est la vraie vie, en fait, et pas se dire, non, la vraie vie c'est pas ça, c'est pas les réseaux sociaux, la vraie vie c'est le... Mais non, mais en fait, les réseaux sociaux, c'est des vrais gens de la vraie vie, et il se passe des vraies choses, vous voyez. Et donc je donne cet exemple-là, mais ça aurait pu être un autre, et c'est pas forcément juste face à la technologie, mais il y a un peu une idée de rester en lien avec le monde dans lequel on vit, donc garder une forme de flexibilité permet ça, permet de rester en lien avec le monde dans lequel on vit. Et ça permet aussi de nous-mêmes nourrir notre esprit et ne pas laisser notre corps un peu comme le corps physique en fait, ne pas laisser notre corps ne plus être capable d'avoir de nouvelles possibilités, d'apprendre de nouvelles choses. Moi je trouve ça super, justement, je donnais l'exemple des réseaux sociaux, quand je vois des personnes qui sont retraitées et qui font des TikTok, parce que ça montre une certaine flexibilité mentale en fait, parce que c'est des gens, quand ils sont nés, il y avait à peine le téléphone, voire pas du tout le téléphone. Moi, ma mère, elle a 76 ans, et quand elle est née, le téléphone n'existait pas en fait. Et donc, c'est assez fou de se dire qu'il faut une flexibilité, une capacité d'adaptation et une capacité de recevoir de la nouvelle information et d'accepter que son monde change et évolue pour pouvoir s'adapter à ça. Et je trouve que pour vieillir sereinement, c'était intéressant, ça, d'avoir cette espèce de souplesse parce que ça nous permet de rester autonome, ça nous permet de rester en contact avec le monde et ça permet les autres choses, hein, de rester en lien et de continuer à apprendre sur soi et d'apprendre tout court. Donc ça rejoint aussi les deux points précédents. Mais pour moi, c'est vraiment le même bénéfice, si vous voulez, de travailler sur sa flexibilité mentale et le bénéfice de travailler sur sa flexibilité, sa mobilité physique. En fait, c'est exactement la même chose, ça permet de continuer à faire des liens, de connexions, de ressentir des émotions, de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Et pour moi, c'est un truc que je trouve très important. Et c'est pour ça que c'est mon troisième point et la troisième raison que je trouve utile pour nourrir sa flexibilité mentale. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de vendredi, un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur sesentirbien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre-rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers AZERTY français, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas, à tout de suite.